Bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve un lundi soir également, en cette fin de ce début d'été et cette fin d'année scolaire, pour accueillir une nouvelle candidate, Madame Nathalie Arthaud. Bonsoir, Madame Arthaud.
Bonsoir.
Merci beaucoup de prendre ce temps avec nous en cette fin d'année. Alors, je vous explique, à Solutions démocratiques, on organise des débats avec tous les candidats qui souhaitent échanger avec nous pour parler aussi de la compatibilité entre ce qu'ils portent, leur vision, et nous, ce qu'on défend, ce qu'on porte et nos revendications. Comme je vous l'expliquais, il y aura trois temps dans cet échange. Un premier qui va vous permettre de vous présenter, de nous expliquer pourquoi vous êtes à nouveau candidate. Un second temps où vous aurez l'occasion de nous parler de votre projet, de votre vision. Et puis un dernier temps où moi, je vous interrogerai du coup sur nous, ce qu'on porte et votre opinion sur nos propositions. On prendra aussi les questions en fin d'échange. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à le faire en utilisant le chat. Et puis, voilà, je poserai les questions à Madame Arthaud à la fin de cet échange. Je vous propose qu'on commence. Madame Arthaud, je pense que votre visage est connu. Mais voilà, si vous pouviez un peu vous présenter, nous dire pourquoi vous êtes candidate en 2027 à la présidentielle.
Eh bien, écoutez, merci pour cette invitation. Donc, oui, je suis candidate à l'élection présidentielle. Je suis porte-parole de lutte ouvrière, mais je gagne ma vie en travaillant, hein. Je suis enseignante et en fait, je suis une militante. Je suis une militante. Et si je me présente à l'élection présidentielle, ce n'est pas parce que je pense qu'on pourra changer la société simplement en votant, mais c'est pour défendre justement une perspective. C'est pour défendre l'idée qu'il faut que le monde du travail conteste la direction de la société à la bourgeoisie, qu'il faut que le monde du travail réalise qu'avec cette société capitaliste, on va dans le mur. Voilà, dans le mur. Climatique, là, je crois quand même qu'on est dans l'actualité, dans le mur des guerres aussi, dans le mur des inégalités, dans le mur de l'exploitation. Donc voilà, ce sont ces perspectives-là que je porte, moi, à l'élection présidentielle, des perspectives communistes, révolutionnaires et internationalistes.
Merci beaucoup. Donc, vous portez effectivement, vous vient dit, la voix du travail, des travailleurs dans l'élection. J'aimerais maintenant vous demander quelle est votre vision de la société à laquelle vous aspirez? Et là, je vous donne deux petites cédettes sur une vision positive, hein, une vision d'espérance, plutôt que des diagnostics sur les choses qui vont mal. Je pense qu'on les partage beaucoup. Et puis, une vision qui est vraiment un projet idéologique. Vous parliez de communiste, internationaliste, un peu détailler ce que ces mots veulent dire, mais pas voilà. Nous, on dénonce un peu ces présidents qu'on appelle liste de courses, c'est-à-dire qui nous présentent toutes les mesures qu'ils mettraient en place s'ils avaient le pouvoir. Donc voilà, si vous pouviez nous présenter votre vision, ce serait super. On vous écoute.
Moi, je pense qu'il faut, c'est tout le sens de mon militantisme, il faut que les travailleurs prennent le pouvoir sur la politique, le pouvoir sur les entreprises. Et je suis convaincue qu'avec les travailleurs au pouvoir, on n'aurait par exemple pas de chambre d'hôpital à 35 degrés. On n'aurait pas de chambre d'EHPAD pareil à 35 degrés. On n'aurait pas cette situation-là où finalement tout ce qui nous est le plus précieux, hein, est systématiquement relégué au second plan où il n'y a que le profit qui compte. Voilà, je suis convaincue que si les travailleurs étaient au pouvoir, les éboueurs, les aides-soignants, les professeurs, les ouvriers, tous ceux qui font tourner la société, seraient reconnus à leur juste valeur, auraient verraient leur salaire passer devant les profits, verraient leurs conditions de travail passer devant la course à la rentabilité. Je suis convaincue que les travailleurs au pouvoir, on réorganiserait complètement le travail. Ça, c'est une conviction absolue. Je pense qu'on travaillerait moins, qu'on travaillerait tous. Je pense qu'on répartirait le travail. En fait, vous savez, un peu comme dans une famille qui s'entend bien et qui est à peu près bien organisée, eh bien on répartirait en fait les tâches et on arrêterait avec cette folie qui consiste écraser de travail ceux qui en entendent, et puis où des millions d'autres sont marginalisés et sont complètement en dehors de la société et végètent au chômage ou avec des petits boulots. Donc il y aurait une répartition du travail, et puis je pense aussi que avec eux au pouvoir, eh ben, on pourrait justement collectivement décider de ce qu'on produit, où, comment, pourquoi. Parce que tout ça nous échappe aujourd'hui. Mais là, on redeviendrait vraiment maître, finalement, des immenses possibilités techniques qui sont recelées par la société. Parce que moi, je suis enthousiasmée par le génie humain. Moi, par exemple, l'intelligence artificielle, je suis convaincue qu'on pourra faire des choses magnifiques. Dans la santé, par exemple, mais dans la communication, sans aucun doute. Bon, pouvoir parler avec des gens qui n'ont pas la même langue, enfin, des choses magnifiques. Mais on doit quand même pouvoir ensemble discuter de qu'est-ce qui nous est utile, qu'est-ce qui nous sera pas utile, qu'est-ce qui sera nuisible même à la société. Ça devrait être une discussion collective. Et ça, les travailleurs au pouvoir, ben, seront capables justement d'imposer que tous ces choix-là soient partagés. Puis je pense que voilà, on en finirait avec l'exploitation et que, y compris avec la domination des pays riches sur les pays pauvres, pour moi, ce serait justement des pays qui pourraient coopérer. Quand on voit les moyens de communication, de circulation, comment on peut se partager les connaissances, les moyens techniques, etc., l'heure est à la coopération entre les peuples et pas aux guerres, en fait. Donc voilà. Et bon, je suis sûre que, une telle société. Elle changerait l'homme aussi, elle transformerait profondément l'homme, et que on en finirait avec ces comportements individualistes, avec ce chacun pour soi, avec ces rivalités, avec ces comportements là où on est mis en concurrence les uns avec les autres, et puis tout ce que ça charrie enfin voilà, les actes de délinquance, mais aussi le non-respect des femmes, le non-respect des enfants, avec toutes ces violences qui sont révoltantes. Voilà, je suis convaincue que oui, avec les travailleurs au pouvoir, sans cette société d'exploitation, d'oppression, eh bien, l'humanité, elle fera un nouveau pas de géant.
D'accord, donc une vision vraiment axée sur l'idée de donner le pouvoir aux travailleurs, qu'ils l'exercent collectivement, décident ensemble de leur destin, et où les peuples, en fait, s'accordent aussi sur leur interaction, leur solidarité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette vision, vous comptez la faire advenir, la mettre en place? Quelle est un peu votre stratégie, votre mode d'action?
Moi, je suis convaincue que tout ça, finalement, deviendra un objectif pour des centaines de millions de travailleurs partout sur la planète quand ils entreront en révolte, quand ils auront envie justement de secouer ce diktat-là de l'argent, de la domination de quelques milliers de capitalistes qui finalement captent l'essentiel des richesses et dominent toute la société. Quand justement les peuples se soulèveront, moi je suis convaincue qu'on va devant de grandes révoltes. Que toutes ces inégalités, ces guerres et cette descente dans la barbarie qu'on connaît dans un très grand nombre de régions du monde, bien sûr, je pense au Moyen-Orient, mais je pense à la guerre en Ukraine, mais je pense aussi, vous savez, on bat un record de femmes et d'hommes qui sont enfermés dans des camps. Dans des camps. Alors, c'est des camps de réfugiés, c'est des camps fermés, des camps de prisonniers. Bon. Donc, il y a cette descente-là vers la barbarie, mais je suis convaincue que il y aura des réactions. Et que, comme il y a eu les révoltes aux Arabes, comme il y a eu le Irak, comme il y a eu une révolte au Soudan, comme il y a eu, vous savez, les insurrections de ce qu'on a appelé la Gen Z, dernièrement les manifestations au Maroc, je suis convaincue que les opprimés, les exploités, les petites gens, ils chercheront à nouveau la voie. De vivre mieux, tout simplement, de vivre mieux. Et j'espère que oui, cette perspective de s'adresser à ceux qui tiennent les rênes de la société, et pas que les rênes politiques, hein, parce que peut-être qu'on en discutera tout à l'heure, mais pour moi, le pouvoir, il n'est pas d'abord à l'Élysée. En fait, le pouvoir, pour moi, c'est d'abord le pouvoir d'argent, le pouvoir que concentrent les capitalistes au travers de leurs capitaux. Donc j'espère que oui, ils sauront finalement disputer le pouvoir à cette classe capitaliste et prendre leur sort en main et réorganiser la société en fonction de nos besoins. Voilà, et moi, ma conviction, C'est que, vous savez, les peuples, les travailleurs de tous les pays, de ce point de vue-là, ils ont les mêmes intérêts, en fait, ils ont les mêmes revendications et les mêmes préoccupations.
Donc, un agenda qui est insurrectionnel, c'est-à-dire l'idée, c'est de, voilà, arriver à une révolution, une insurrection. Vous parlez aussi d'un rapport de force, hein, établir un rapport de force avec ceux qui ont le pouvoir. Mais du coup, vous vous présentez quand même à une élection présidentielle. Donc, comment cette candidature, voilà, c'est assez, j'ai envie de dire, inédit, ça vous est unique, ce positionnement. Comment vous arbitrez ces deux éléments-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous espérez de votre candidature sur ce plan-là?
C'est vrai, et moi je ne ferais pas croire, je n'aurais pas cette posture, votez pour moi et vous allez voir ce que vous allez voir, je ferai le SMIC à 2200 euros net, je ferai ci, je ferai ça. Non, je ne vais pas dire ça. Mais je vais par contre affirmer que oui, tout est une question de rapport de force. Et ce qui était impossible avant qu'il y ait la grève générale en mai-juin 1936, par exemple, hein, est devenu possible après la grève, est devenu possible avec les occupations d'usines, est devenu possible avec la levée en masse, en fait, des travailleuses et des travailleurs. Donc je vais dire qu'en réalité, notre force, c'est de se battre collectivement, c'est de jouer sur cette puissance qu'on a qui consiste à être indispensable au fonctionnement de la société, indispensable à l'accumulation des capitaux pour le grand patronat, pour la grande bourgeoisie. C'est cette force-là qu'il faut activer. Et j'espère que dans cette campagne présidentielle, bah oui, je ferai exister cette idée que nous ne sommes pas, l'humanité n'est pas condamnée pour l'éternité à la société capitaliste. Que tous ceux qui nous expliquent que bah, le capitalisme correspond pile poil à la nature humaine, hein, parce que l'homme est un loup pour l'homme. Ben non, non, je ne suis pas d'accord avec ça, je l'affirmerai. Je dirais que la société humaine, elle a traversé des organisations sociales très différentes les unes des autres, et qu'on n'est pas à la dernière station. Voilà, on n'est pas au terminus, en fait. L'histoire, elle continue. La lutte de classe, elle continue. Hein, les inégalités continuent. Ben, tout ça va créer forcément des remises en cause profondes de la société. Et il faut qu'on ait une vision, qu'on ait une perspective, qu'on sache où on peut aller. Et encore une fois, moi je pense que la perspective, c'est d'aller vers une société collective. Collective parce que tout simplement, nous ne sommes rien sans les autres. On n'est rien sans le travail des autres parce qu'on est déjà dans un immense collectif de travail. Et quand on y réfléchit, en fait, on travaille pas seulement avec ceux qui sont concentrés dans la même entreprise que nous, mais on travaille avec des femmes et des hommes aux quatre coins de la planète. Parce qu'en fait, les trusts n'ont jamais été aussi importants en nombre et aussi internationalisés.
Et comment, puisque nous on est aussi très axé sur les règles de décision collective, comment vous envisagez cette prise de décision collective? Quelles seraient les procédures? Comment on se mettrait d'accord sur les objectifs, voilà, à définir? Comment ça fonctionnerait très concrètement?
C'est vrai qu'une première différence avec la façon dont vous avez de présenter les choses, en parlant de démocratie du peuple, etc., nous, nous parlons de démocratie ouvrière, dans le sens où, finalement, cette démocratie, c'est ceux qui se battent, pas seulement des ouvriers, il ne faut pas penser, je ne parle pas seulement de celui qui a un bleu de travail, je parle à tous ceux qui sont bah, utiles à la société, en fait, les 99% hein, de la société. Hein. Vous savez, même pour moi, la femme qui élève ses enfants est une travailleuse, en fait, et elle est indispensable à la société, du simple fait, d'ailleurs, que justement, elle assure le renouvellement des générations. Et en fait, c'est un travail qui, y compris, est aussi prenant et aussi difficile et aussi dur et aussi épuisant qu'un travail parfois à l'usine, hein, de s'occuper des enfants. Donc, non, le monde du travail, pour nous, c'est ceux qui ont un travail, bien sûr, manuel, mais aussi un travail intellectuel, aussi ceux qui ont un statut d'auto-entrepreneur, ceux qui sont le petit artisan, c'est aussi ceux qui galèrent hein, de petit boulot en petit boulot, qui entre chômage, intérim, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est au sens large. Mais à partir du moment où ils veulent se battre, eh bien, en fait, ils commencent à discuter ensemble. Ils votent ensemble et ils votent pour tout. Bah, écoutez, on a quand même l'exemple des Gilets jaunes. L'exemple des Gilets jaunes qui était magnifique pour ça. Magnifique parce que des femmes et des hommes qui ne se connaissaient pas qui ne se connaissaient pas et qui n'avaient pas l'habitude de l'organisation, parce que beaucoup d'entre eux étaient dans des petites structures, souvent n'avaient jamais fréquenté de syndicats, n'avaient jamais appartenu à aucun parti politique, étaient finalement assez isolés. Ils ont eu ce réflexe de se réunir sur les ronds-points, vous voyez, et la discussion a démarré. Et ils ont fonctionné ensemble. Ils ont fonctionné ensemble comment? Ben, en discutant beaucoup, parfois en cherchant le consensus, parfois ils ne le trouvaient pas, ils ont voté, parfois ils ont choisi des représentants, parfois dénoncé ceux qui se présentaient comme des représentants, parce que alors, moi j'ai adoré quand ils ont posé un lapin au Premier ministre, par exemple, enfin, quand les. Voilà, parce que ben justement, ça pose la question de dans quel représentant on a confiance. Et ils se posaient tous ces problèmes-là. Ben moi, je suis convaincue que quand les gens ont envie de se battre pour quelque chose, quand ils ont un objectif, quand ils ont cette combativité, ben oui, ils font régner cette démocratie ouvrière qui consiste à discuter, à chercher à se convaincre les autres et puis à voter pour au final décider et appliquer collectivement ensemble la chose. Parce que souvent aussi, on sépare le vote de l'application, alors qu'en fait, l'essentiel est quand même souvent dans qui applique.
Et la démocratie ouvrière, vous justement, vous la mettez à raison, hein, dans un point de peut-être de divergence entre nous, mais qui décide qui fait partie de ce collectif, qui décide qui a fait partie de la décision collective et qui pas? Qui vous incluez?
Très simplement, ceux qui se battent, ceux qui sont présents, ceux qui participent au mouvement de façon active. Vous savez, par exemple, dans une grève, parce qu'il y a beaucoup d'exemples aussi, hein, des grèves qui durent et qui sont des véritables bras de fer. Comment ça se passe? Eh bien, où, attention, je parle des grèves où les salariés ne restent pas à la maison, mais où vraiment pour eux l'enjeu est devenu important et où ils ont compris que c'était à eux de décider, y compris de comment ils allaient se battre, avec quels moyens, quelles actions ils devaient déployer, qu'ils devaient être maîtres de leur mouvement. Je parle de ces grèves-là. Hein, eh bien, dans ces moments-là où les travailleurs veulent être les décideurs, les maîtres de leur mouvement, eh bien, bah, ils mettent en place des règles. Hein, et moi, je connais beaucoup de règles de grève où il y a eu des cartes de grévistes. C'est-à-dire que chaque matin, le gréviste se faisait enregistrer, pour d'ailleurs pour dire qu'il était bien en grève, hein, parce que, y compris dans ces mouvements-là, bah, il y a aussi des collectes, il y a aussi
Bien
finalement
sûr,
on s'entraide.
il
Voilà, ça aussi, ça compte.
y a
Hein. Eh bien, on est gréviste, on est dans le mouvement, on a une carte de grève, et ben on a un droit de vote. Pour moi, c'est ceux qui se battent qui doivent décider. Donc, c'est sur cette base-là. Ce n'est pas sur la base de bah, d'où tu viens. C'est d'ailleurs, est-ce que tu as des papiers en règle? Et est-ce que tu as bien la nationalité française? Et puis d'ailleurs, est-ce que toi, c'est quel boulot? T'as un pat... Non, c'est ceux qui veulent se battre. Et ça, les gilets jaunes, bah, c'était ça aussi. Hein, c'était, ils formaient une communauté de femmes et d'hommes qui avaient envie de se battre là-dessus. Pour le pouvoir d'achat, sur... bon. Eh bien, ils ont donné la parole, ils ont donné la possibilité justement de peser à chacun d'entre eux. Donc pour moi, c'est ça la démocratie ouvrière. Et par exemple, je trouve absolument scandaleux, pas normal, que pour mettre fin à une grève, le patron décide de faire voter tout le monde, y compris les non-grévistes. Ben non, c'est les grévistes qui sont maîtres de leur grève. C'est à eux de décider quand est-ce qu'ils l'arrêtent. Voilà. Et on a le droit aussi d'être minoritaire. On a le droit d'être minoritaire et de se battre, et de se battre.
Donc la citoyenneté se définit par la participation à la lutte, quoi, à l'action, à elle,
Oui,
voilà.
pour moi
D'accord.
essentiellement. Et pour le reste, si vous voulez, malheureusement, c'est beaucoup d'illusions en fait. Quand on nous explique qu'on est citoyen juste parce qu'on a glissé un petit bulletin dans l'urne, ben, en général, on se fait avoir en fait. En général, on se fait avoir et on se fait déposséder de son véritable pouvoir et de son moyen de peser.
Je vous propose d'entrer un peu sur ce qu'on défend pour vous entendre aussi, parce que nous, au sein de Solutions démocratiques, on essaye de porter cette demande. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous citiez le mouvement des Gilets jaunes. Bien qu'effectivement, il y ait eu une vraie organisation sur les ronds-points, ils ont quand même, nous avons quand même porté aussi l'idée de permettre à chacun d'avoir un nouveau droit, qu'il participe ou pas, hein, via le référendum d'initiative citoyenne, à avoir ce nouveau droit d'écrire la loi et de voter la loi. Nous, la vision qu'on porte, il y a des proximités, il y a des divergences au sein de Solutions démocratiques. Ce qu'on partage avec ce que vous venez de dire, c'est qu'on souhaite vraiment que les citoyens soient les patrons, puissent décider des enjeux les plus importants qui sont relatifs à leur système politique. Mais voilà, on a une conception de la citoyenneté est beaucoup plus large, c'est-à-dire chaque individu a une parcelle de pouvoir, de dignité, et du coup peut décider, entrer dans la décision collective. Et pour ça, on défend un outil, une procédure qui est très précise. Elle s'appelle le référendum d'initiative citoyenne constituant, et c'est l'idée que chaque citoyen puisse avoir le droit d'écrire des modifications constitutionnelles et de les voter directement. Donc, je dirais la différence, c'est qu'on a une procédure très précise et une conception de la citoyenneté qui est très englobante. Et voilà, l'idée que nous, on se centre vraiment sur la question du pouvoir politique, la reprise, ou la prise plutôt, du pouvoir politique. Quelles sont vos opinions à ce sujet? Comment ce projet vous parle? Ou pas.
Bon, moi, je dirais que je suis ni pour ni contre. Je crois qu'il y a surtout pas mal d'illusions en fait là-dedans. Dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, hein. C'est que les citoyens doivent être leurs propres patrons. Voilà. Mais pour moi, ce n'est pas des mots creux, au sens strict. C'est-à-dire qu'en fait, pour être son véritable patron, eh bien, il faut sortir de cette situation d'infériorité que nous impose l'existence des classes sociales. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas à égalité. Et c'est là que moi, je ne dis pas les citoyens, le peuple en général. Je pense que la société, elle est divisée en classes sociales. Il y a d'un côté ceux qui possèdent les capitaux et qui font travailler les autres et qui ont un pouvoir sur les autres, le pouvoir de dire, toi, je t'embauche, toi, je te paye tant, toi, je t'accorde le congé, toi, je te forme, toi, je te vire, etc. Et puis, il y a ceux qui sont démunis de ces moyens de production, qui n'ont pas de capitaux et qui sont forcés pour vivre de vendre leur force de travail. Pour moi, ça, c'est la classe ouvrière, c'est le monde du travail, c'est l'écrasante majorité des gens qui doivent, pour gagner leur vie, gagner leur pain, vendre soit leur force de travail manuel, soit leur force de travail intellectuel. Mais vous voyez que déjà là, on n'est pas du tout sur un rapport d'égalité, hein, où finalement, moi, y compris, bon, moi, je suis enseignante, mais qu'est-ce que je décide de la façon dont les cours sont organisés?
Non, rien, mais
Y
moi
compris
je
de ce
partage la même impuissance, ça
Voilà, même les programmes, comment ils sont faits. Vous savez, moi, je suis enseignante d'économie-gestion. En économie, il n'y a pas de chapitre sur la crise. La crise, ça n'existe pas. Vous voyez, il n'y a pas de
certain.
crise. Hein, la crise, ça n'existe pas dans la société capitaliste. Bon, vous voyez, alors donc, mais ça, c'est vrai de partout. C'est vrai de partout, y compris les ouvriers qui connaissent bien mieux le travail que n'importe quel manager et que n'importe quel actionnaire qui a investi dans l'entreprise. Est-ce qu'il a son mot à dire? Est-ce que aujourd'hui dans la société, non. Donc, être le patron, ça veut dire exproprier cette bourgeoisie, collectiviser ces entreprises. Et là, oui, on sera les patrons collectivement. Et là, on pourra vraiment dire, bah, on est à égalité et on peut décider tous ensemble. Là, on pourra le dire. Mais sinon, non, je ne suis pas d'accord. En fait, si vous voulez, c'est l'illusion qu'on pourrait avoir plus de pouvoir. Hein? Alors même que, est-ce que vous pensez une seconde qu'il pourrait y avoir un RIC pour dire, est-ce que vous êtes pour le SMIC à 2200 euros net? Moi, je pense qu'il faudrait le porter à 2200
Eh
euros net,
bien
le
oui,
SMIC,
et je vais
aujourd'hui.
même vous dire, Madame Artaud, que ça a existé. C'est-à-dire qu'on a eu, et je voudrais vraiment qu'on continue un peu cette discussion, parce que vous nous avez dit, il y a des choses qui me parlent, il y a des choses qui me parlent moins. Quelque chose, nous, qu'on a constaté, en tout cas sur la défense du RIC constituant, quand on essaye d'en parler, c'est que tous ceux qui ont le pouvoir sont absolument contre. Par contre, ces poches de soutien les plus hautes, c'est-à-dire où on est à quand même un nombre très important de gens, hein, 80%, 81%, c'est parmi les gens qui sont ouvriers, employés, chômeurs, sans diplôme, loin des centres urbains. C'est-à-dire que nous, on a cette confiance de dire, ben, on leurre pas les gens, en fait. Ceux qui n'ont pas le pouvoir le demandent, et le fait que le système fonctionne pas montre bien que derrière, ils ont un mur. Parce qu'on ne leur donne pas. Donc, on a quand même une mesure qui est largement, largement soutenue par ceux qui sont très, très loin, du pouvoir. Est-ce que ça, du coup, vous, ça vous paraît un argument pour le soutenir aussi? Vous dire, bah voilà, si comme ça, les gens ont l'intuition, les gens vraiment qui sont défavorisés ont l'intuition que c'est un bon outil, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le défendre au sein de Force ouvrière?
De
Lutte
lutte
ouvrière,
ouvrière.
pardon.
Non, mais je reconnais cette aspiration, elle est mille fois légitime et j'en suis complètement solidaire. Cette aspiration, comme ça, à avoir davantage de pouvoir. Bien sûr, on ne doit pas accepter aujourd'hui ce diktat d'une poignée de capitalistes. Enfin, quand on voit que Elon Musk, vous avez vu que Elon Musk, sa fortune dépasse les 1 000 milliards de dollars. Qu'en fait, à lui seul, il possède plus que beaucoup d'États, beaucoup de pays, en fait. Et donc, en fait, il a la puissance financière qui dépasse même celle de l'État français, en fait. Donc, c'est quand même dingue. Et vous vous rendez compte que lui, ses décisions, elles impactent pour des décennies, en fait, notre économie et toute la société. Avec un tel poids, avec autant d'entreprises entre ses mains, et puis surtout parce qu'il capte des milliards et des milliards de capitaux que moi je verrais tout à fait mieux investis dans d'autres domaines.
Non,
Vous
et ça,
voyez? Donc,
on est, je trouve,
je
on
pense.
partage cette idée-là. Je pense que c'est l'ordre un peu du diagnostic. C'est-à-dire, nous, on pense que quand le pouvoir est concentré en peu de mains, il est très corruptible. C'est-à-dire, c'est facile pour un Elon Musk d'aller payer des candidats à la présidentielle aux États-Unis parce que le pouvoir est tellement concentré qu'avec sa force de frappe, il peut vraiment corrompre en fait un petit nombre de gens. Alors que quand le pouvoir se disperse, quand chacun de nous, nous sommes titulaires d'une parcelle du pouvoir, bah c'est bien plus difficile. Et je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais quelque chose, les votations qui ont eu lieu dans plusieurs pays, hein, l'Uruguay, la Suisse, les îles Palau, la Micronésie, ont souvent porté justement sur la régulation du travail, sur l'interdiction des parachutes dorés, sur la mise en place de salaires minimum, sur la discussion aussi d'un revenu universel. Et on voit que cet outil permet en fait aux gens qui, comme vous le dites, sont travailleurs de peser sur la décision politique. Vous disiez justement que c'est une aspiration qui vous parle. Est-ce que vous seriez prêt à la soutenir, à l'ajouter à votre programme comme mesure, à en parler?
Non, mais le pouvoir, vous dites le pouvoir est trop concentré. Mais qu'est-ce qui donne ce pouvoir à quelques-uns? Par où passe ce pouvoir? Il passe par la possession des capitaux. Il passe par le fait que voilà, il concentre les capitaux en fait, qu'il concentre la propriété privée des moyens de production. Et ce qu'il faut comprendre. C'est là que moi, je suis gênée par l'idée que ce serait simplement un processus institutionnel à mettre en place et puis finalement, pof, 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 on y arriverait. C'est qu'en fait, la domination de la grande bourgeoisie, elle est assise non pas sur une loi, non pas sur une constitution, elle est assise sur la possession des capitaux, elle est assise sur la propriété privée, c'est un rapport de force sociale en fait, qui n'est pas inscrite encore une fois dans la loi. C'est la loi du plus riche en fait, tout simplement. Et le plus riche d'ailleurs, il a beaucoup de moyens, vous l'avez d'ailleurs souligné, hein, il a beaucoup de moyens de faire en sorte de passer par-dessus les lois en fait. Parce que effectivement, quand on a beaucoup d'argent, comme un Elon Musk, comme un Trump aussi, hein, voilà, bah on a l'habitude de tout acheter, en fait. Alors, on achète des journaux de télé, hein, on achète des journaux, on achète des télés, on achète des entreprises avec les travailleurs qui vont avec, on achète les femmes, hein, parce que c'est ça aussi, la société, là, tout le monde est horrifié de voir les violences faites. Mais le capitalisme, il pourrit tout, en fait, même les relations. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, en fait, un Elon Musk ou un Trump, vous voyez, leur pouvoir, c'est le pouvoir social, c'est leur richesse qui le
Mais
leur donne.
pourquoi alors,
Et
juste une question
donc,
là-dessus.
en fait, si on veut qu'il y ait moins de pouvoir concentré entre les mains de ces gens-là, c'est leur richesse qu'il faut viser.
Mais du coup, c'est un peu paradoxal ce que vous soulignez, parce qu'en fin de compte, si le pouvoir politique n'était pas la clé, un Elon Musk n'aurait aucun intérêt à parrainer un candidat à la présidentielle. En fin de compte, il n'aurait pas besoin de conquérir le pouvoir politique pour contrôler la société, si seulement c'était un rapport social.
Mais moi, je pense qu'ils n'en ont pas besoin en réalité. Mais puisqu'il peut le faire, puisque bah, ça l'arrange d'avoir un ami plutôt. Encore, ils se sont fâchés. Vous avez vu, ils se sont fâchés. Parce que, y compris, voilà, hein, c'était bisous, bisous, bisous pendant toute la campagne. Et puis, y compris le temps hein, que Elon Musk aide Trump à virer, je ne sais, enfin, je sais pas, quasiment 100 000 fonctionnaires, hein, en fait. Et puis après, ils se sont fâchés. Donc, ils peuvent parfaitement s'en passer, hein. Ils peuvent se passer d'amis au pouvoir. Ben, ils préfèrent quand c'est des amis, évidemment. Mais ils peuvent s'en passer. Et je peux vous dire que dans le rapport de force entre ceux qui possèdent les capitaux et ceux qui sont à l'Élysée, c'est pas l'Élysée qui gagne. Hein. C'est pas l'Élysée qui gagne. Non. Prenez tous les gouvernements de gauche qui avaient promis. Prenez Hollande, le dernier en date qui avait un tout petit peu fait briller les yeux, alors pas tellement les miens parce que je suis vaccinée, mais avec l'histoire, vous savez, de la taxation à 75% des plus grandes fortunes, et puis comment finalement, une fois arrivé au pouvoir, il a rétropédalé, hein, et tout ça, on n'en a plus entendu parler, parce que c'est comme toujours. Comme toujours. Je me souviens aussi de la séquence avec Arnaud Montebourg, qui nous avait expliqué je vais nationaliser ArcelorMittal s'ils veulent fermer. C'était Gendrange, je crois. Voilà. S'ils veulent fermer, je vais nationaliser. Puis finalement, Mittal, le PDG de Mittal, avait déboulé dans son bureau en lui disant oh, coucou, y a 40 000 emplois qui dépendent de moi en France, hein, venez pas trop me chatouiller. Et puis finalement, à Arnaud Montebourg, qu'est-ce qu'il avait fait? Bah, il avait reculé. Voilà, il avait reculé. Plus question de nationalisation, plus de question de. Non, il avait reculé. Donc, si vous voulez, il y a. Vous savez, il n'y a pas de plus grande puissance que l'argent dans la société actuelle. Il n'y a pas de plus grande puissance que ça. Et ça, vous ne l'attrapez pas avec un bulletin de vote ou avec un référendum. Ça, ce n'est pas vrai. Ça me refait penser à une autre histoire. Je vous laisse parler, je développerai peut-être après.
Ouais, je voulais. En fait, c'est intéressant parce que du coup, en travaillant vraiment, en poussant le sujet de la démocratie directe et du pouvoir populaire, en fait, on refait un débat qui est un débat ancien, qui est le débat entre les anarchistes et les communistes au 19e siècle, c'est-à-dire où vraiment il y avait toute une branche anarchiste, socialiste, révolutionnaire qui disait, en fait, il faut prendre le pouvoir politique. Parce que c'est par la prise du pouvoir politique qu'on va pouvoir mettre en place des règles du jeu qui sont plus inclusives et qui bénéficient à tous. Et pourtant, les capitaux étaient déjà très concentrés. Et de l'autre côté, voilà, plutôt une option communiste qui, eux, étaient très, très rétifs à l'idée de donner le pouvoir politique aux gens. Donc, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est sur le. Solution démocratique, pour nous, vraiment, la racine du mal, c'est le fait que le pouvoir politique s'exerce en des petites mains. Par exemple, tout ce que vous venez de citer, François Hollande, il s'est retrouvé à sans doute négocier avec des groupes financiers sans que nous, citoyens, nous soyons au courant de ce qui se négocie, comment ça se négocie, nous étions impuissants. Et c'est notre impuissance qui ne nous permet pas justement de mettre en place le rapport de force dont vous parlez. Vous ne pensez pas qu'un outil comme le RIC constituant, ça vous permettrait d'instaurer ce rapport de force de façon plus forte que par une logique révolutionnaire et d'appel à l'insurrection?
Alors, d'abord, sur le débat entre les anarcho-syndicalistes, les communistes, je ne suis pas tellement d'accord, je ne vois pas les choses du tout comme ça, parce que, et puis je l'ai dit en commençant, mon combat, c'est que les travailleurs prennent le pouvoir politique et le pouvoir aussi sur les entreprises et sur l'économie. Pour moi, les deux vont de pair. Bien sûr qu'il faut que les travailleurs prennent le pouvoir, il faut qu'ils gouvernent. Faut qu'ils gouvernent, ça c'est sûr, c'est évident. Mais en réalité, ça va aller de pair avec le rapport de force imposé dans les entreprises. Et vous savez, par exemple, il y a un exemple, la révolution russe, qui pour nous est quand même un moment fondateur, j'ai envie de dire, parce que c'est une période où les ouvriers, les paysans, les soldats, c'était en pleine Première Guerre mondiale, se sont révoltés contre le tsarisme et se sont révoltés. ont dû s'armer parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix que quand vous manifestiez contre un régime de ce type-là. C'est comme quand vous manifestez en Iran aujourd'hui. Hein, vous dites, ben, les manifestants à bras nus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc là, en Russie, les révoltés s'étaient armés. D'ailleurs, en fait, ils n'avaient même pas besoin de s'armer parce qu'en réalité, ils avaient déjà les armes entre les mains parce que c'était la Première Guerre mondiale et qu'on leur demandait de tirer sur les Allemands en face. Donc, beaucoup avaient déjà les armes hein, et on leur demandait effectivement d'assassiner tous les jours des centaines de gens qui leur ressemblaient comme eux, qui étaient des paysans et des ouvriers, hein, exactement comme eux, avec les mêmes problèmes en fait. Donc, ils se sont révoltés et ils se sont révoltés et ils sont à la fois organisés en soviet, c'est-à-dire en assemblée générale, mais quasi permanente en fait, quasi permanente, où ils prenaient des décisions, où ils mettaient en place des commissions bah, pour les faire appliquer, ils allaient porter leurs décisions aux autres, en discuter,
Non, j'entends bien.
etc. Et donc,
J'entends.
y compris dans les entreprises, il y avait des soviets dans les entreprises, et c'était les deux, et c'était les deux, et à la fois les travailleurs.
Bah, ils se sont fait, si je peux me permettre, ils se sont fait quand même voler la révolution politique. C'est-à-dire, et c'est peut-être quelque chose qu'on peut dire sur votre projet, c'est-à-dire, nous, on pousse aussi pour le pouvoir politique pour ne pas se faire voler la décision une fois que si. Votre projet arrive, la révolution a lieu. C'est-à-dire, il y a un enjeu aussi à s'assurer que le pouvoir politique est exercé
Oui,
vraiment de façon démocratique
mais
par les.
l'enjeu, c'est pas de dire on va mettre un nouvel outil pour pouvoir s'exprimer, un référendum de plus, etc. Je le redis, dans le contexte actuel, tous ces référendums, mais y compris les lois qu'on prend quand elles ne vont pas au grand patronat, eh ben, elles sont contournées et elles n'existent pas. Mais je peux vous en citer des lois, mais même le Code du travail, il est plein de lois qui est bafoué en permanence. En permanence, on sort d'une canicule là. Je peux vous dire que normalement, le patron doit veiller à la sécurité des salariés. Mais c'est les salariés qui ont dû se battre pour avoir des pauses supplémentaires. Parfois, il n'y avait même pas
Et vous ne pensez pas que si chaque salarié avait la possibilité de. Parce que là, vous
La
dites
loi existe
c'est un
déjà.
outil.
La loi existe déjà.
Oui, mais ça
Le
veut
Code
dire
du travail
qu'il y
dit.
a, il y a, si elle n'est pas appliquée. Non, je comprends tout à fait votre point. Le point que je voulais faire, c'est de dire si chaque salarié aujourd'hui qui voit ses droits bafoués dans la canicule avait la possibilité de changer la Constitution pour dire. Mettre en place des mesures plus protectives, des lois plus protectives, ce serait quand même une avancée pour les droits des travailleurs ou pas, selon vous?
Je n'y crois pas parce qu'en fait, c'est le patron qui fait sa propre loi. Et plus les salariés sont fragilisés par plein de problèmes, par exemple des problèmes de papier, des problèmes de langue, des problèmes, eh bien, plus il fait sa loi en fait. Et je vous le redis, même le code du travail, normalement, il faut payer toutes les heures travaillées. Mais dans combien d'entreprises, les heures supplémentaires ne sont pas payées? Mais il y en a plein, je peux vous dire, il y en a plein. Donc, si vous voulez, c'est une réalité sociale, ça. Et y compris, vous n'allez pas dire au travailleur, ah, on a violé, on t'a pas payé tes heures sup, fais un RIC. Il y a déjà une loi qui dit que toutes les heures de travail, parce qu'il y a déjà une loi qui dit que toutes les heures de travail doivent être payées et que le patron qui ne le fait pas est un délinquant. Et
Mais
alors, ça ne change rien.
vous
Donc,
le dites vous-même.
en revanche, vous savez, par rapport à la canicule, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les travailleurs, heureusement, ils n'ont pas pensé à dire oh, on va faire un RIC, etc. Non, ils ont dit bah, il nous faut plus de pauses, ben, on va les prendre. Il faut que les pauses elles soient plus longues, et ben, on les allonge. Et puis, on ne retourne pas au boulot comme voilà, la pause elle est de 10 minutes, et ben, on en prend 15, on en prend 18. C'est ça qui s'est passé. Hein? Les cadences, la plupart du temps, dans les usines, il y a une chose sur laquelle les patrons ils ont été inflexibles, c'est impossible de diminuer les cadences. Ah, les cadences, il faut les faire. C'est un principe. En fait, ils veulent faire croire qu'il n'y a pas d'autre façon de travailler, qu'il faut forcément travailler toujours plus vite, etc., etc. Bon, ben, il y a des salariés qui ont cassé les cadences. Voilà, tout simplement. Parce
Non, mais j'entends bien,
qu'ils ont
mais
agi
vous le dites
collectivement,
vous-même.
mais y compris en discutant. Et ça s'appelle de l'action directe collective. Mais c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux parce que justement, les travailleurs, ils réalisent qu'en réalité, dans cette société, on n'est pas voué à obéir, on n'est pas voué à dire oui, chef, bien, chef, etc. Quand les discussions, quand les ordres sont contraires à nos intérêts, sont même dangereux pour notre santé, ben on peut dire non. On peut dire non. On peut les contester
Non, mais ça,
collectivement.
on le partage, je pense, complètement, Madame Artaud. Là, je pense que si je peux me permettre, la clarté supérieure de notre proposition, c'est de dire, en fait, le RIC constituant, ce n'est pas un simple outil. Ce n'est pas seulement un gadget, c'est vraiment un changement de système. C'est-à-dire, c'est l'idée que quand chaque personne détient le pouvoir politique, elle n'a pas besoin de faire un référendum. Déjà, elle est crainte parce qu'elle dispose du pouvoir. Parce qu'elle a en elle cette parcelle de pouvoir qui fait qu'aujourd'hui, un patron qui a dans son entreprise, vous preniez l'exemple, je ne sais pas, 50 salariés, il sait que ces 50 salariés, ils sont dépositaires d'un pouvoir politique extrêmement important. Et c'est quand même un atout dans le rapport de force d'avoir ce pouvoir-là. Et pourquoi vous n'y croyez pas?
Non, moi je crois que le patron, il sait que ses 50 salariés disposent d'un pouvoir, mais quand il l'actionne, c'est-à-dire quand il rentre en grève, quand il décide d'arrêter de fabriquer les profits, quand ils arrêtent le travail, quand ils se mettent en bagarre, là, oui, là, le patron craint les travailleurs parce que justement, les travailleurs, quelque part, ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir dans
Et vous êtes
l'entreprise.
d'accord que c'est un
Oui, et
engagement,
vous savez,
j'entends, hein, c'est un engagement très coûteux pour les travailleurs parce que c'est quand même pour défendre nos droits, l'idée qu'on doive, en tant que gréviste, perdre des journées de salaire dans un contexte où le pouvoir d'achat est de plus en plus faible, risquer la répression, parce que c'est ce qu'on observe aussi, hein, beaucoup de grèves ont été cassées et cassées avec une certaine violence quand même. Nous, notre outil, ce qu'on propose, c'est une façon d'instaurer ce rapport de force sans ces
ouais.
coûts-là. C'est-à-dire en permettant aux gens, le simple fait d'être citoyen, les dote de ce pouvoir. Alors, c'est vrai que c'est différent. Nous, on n'a pas l'idée qu'il faut participer. On pense que, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, j'ai ce pouvoir-là. Et du coup, c'est quand même, vous y conviendrez, moins coûteux pour un travailleur, moins exposant et potentiellement un changement plus fort à moindre coût que celui que vous proposez.
Bah en fait, vous allez me convaincre d'être vraiment contre. Parce que précisément, si c'est pour dire que ce sera moins coûteux que la lutte, eh bien là, on est vraiment, vraiment en train de tromper les travailleurs. Parce qu'il n'y a que la lutte, il n'y a que le rapport de force qui peut finalement donner aux travailleurs un pouvoir d'agir, un pouvoir de peser dans cette situation de lutte de classe. Il n'y a que ça. Et dire, ça sera moins coûteux, il n'y aura rien de moins coûteux. La lutte, c'est
Disons
forcément.
que ce
C'est
sera
vrai.
moins notre
Vous
outil.
savez, il y a eu une période dans l'histoire, enfin plusieurs périodes, la Commune de Paris, mais aussi quand même, je reviens sur la vague de grève générale de mai-juin 1936. Pourquoi les travailleurs se sont fait craindre autant que ça? C'est parce que, y compris, ils avaient occupé les usines. Ils avaient occupé les usines.
Ils avaient pris le pouvoir aussi,
Oui,
quand même, ils avaient le gouvernement de Franck Roosevelt.
et là,
Ça, vous pouvez pas.
non, 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 non,
Les grands changements
non. Non, non, non.
ont eu lieu, enfin, les grandes lois. En fait, toutes les lois qui ont amélioré le sort des travailleurs l'ont été parce que, pour deux raisons, parce qu'ils ont pris le pouvoir, c'est-à-dire ils ont réussi à obtenir le pouvoir politique. Ça n'a pas été uniquement, pourquoi non?
Non, parce que en fait, le pouvoir politique, c'était une coalition, y compris une coalition du Parti socialiste avec Léon Blum et le Parti radical, qui était un parti bourgeois. Aujourd'hui, on dirait les macronistes, en fait, hein, le Parti radical. Et c'est eux qui avaient pris le pouvoir sur la base d'un programme, d'ailleurs, qui n'avait absolument rien de radical, dans lequel il n'y avait même pas les congés payés, il n'y avait sûrement pas les 40 heures, il n'y avait pas les représentants syndicaux, etc., etc. Tout ça a été demandé par le patronat au gouvernement, à partir du moment où il y a eu cette grève générale qu'il fallait absolument stopper le plus vite possible. Il fallait sortir, si vous voulez, la lance à eau comme les pompiers font quand il y a un incendie. C'était ça qui s'est passé. Donc oui, il y a eu les congés payés, mais ça a été le fruit de la lutte des travailleurs, en fait, et des sacrifices qu'ils ont faits, y compris de la peur qu'ils ont dû dépasser quand ils se sont lancés dans le combat. Ça a été ça. Parce que
Pour vous, ça, c'est
le gouvernement de
absolument
Blum,
fondamental.
pour moi, en fait, il n'était pas du côté des travailleurs, je vais vous dire. Il n'était pas du côté des travailleurs et ça s'est vu. Ça s'est vu dans les mois qui ont suivi. Ça s'est vu, par exemple, avec sa politique par rapport à la Révolution espagnole, mais ça s'est vu par rapport aussi à la colonisation, où Léon Blum a été absolument opposé à l'indépendance des peuples coloniaux. Hein, c'est même son gouvernement qui a fait arrêter Messali Hadj. Vous voyez, l'étoile nord-africaine en Algérie, un des leaders de l'indépendance, du combat pour l'indépendance en Algérie.
Tout à
Donc, non, ce n'est pas le gouvernement, c'est la lutte des travailleurs. Et c'est justement le fait qu'ils ont réussi à s'imposer comme une force agissante, menaçante, menaçant la propriété privée des patrons, parce que vous avez les patrons, alors là, ils sont complètement paumés quand ils peuvent même plus rentrer dans leur usine, ou en tout cas quand ils veulent rentrer dans leur usine et qu'ils doivent demander l'autorisation aux travailleurs. Et quand les travailleurs leur répondent, bah oui, ici, bah, on est les patrons, en fait. Hein, je reprends votre expression, mais c'était pas quelque chose justement de, c'était pas des mots, c'était une réalité. Ils étaient les patrons. Et effectivement, pendant plusieurs semaines, y compris, ils auraient même pu en fait réorganiser la production. Ils auraient même pu refaire tourner la boîte en décidant eux de comment ils la faisaient tourner et qu'est-ce qu'ils produisaient avec. Ils auraient pu le faire. Ils l'ont pas fait malheureusement parce que justement les perspectives communistes et révolutionnaires n'étaient pas présentes. Et ce n'est pas le Parti communiste et ce n'est pas Léon Blum qui les a défendus parce que justement ils voulaient que ça se calme au plus vite en fait. Voilà. Donc il y a eu cette période-là où les travailleurs en effet ils ont exercé vraiment un rapport de force qui leur a donné du pouvoir. Mais c'était précisément parce qu'ils étaient en grève,
Mais
parce qu'ils
comment,
occupaient les usines.
puisque vous, j'ai deux dernières questions, puis on va prendre les questions, je résumer un peu. Je pense que vous n'allez pas aimer le mot, mais je vais le dire quand même. Je pense que votre conception de l'exercice du pouvoir est beaucoup plus élitiste que la nôtre. C'est-à-dire, nous, on prend acte du fait que dans la vie, en fait, tout le monde participait et c'est aussi capté par des profils très particuliers, c'est-à-dire des gens en général qui ont plus d'aisance pour parler, plus de capacité à aussi être présent dans ces réunions-là, moins peur de l'affrontement physique. Nous, on est vraiment sur une démarche le plus inclusive possible pour que chaque citoyen puisse décider, même s'il ne participe pas, même si il n'a pas les moyens, ou en tout cas la lutte ne lui. C'est l'idée, c'est d'inclure le plus grand nombre dans la diversité de ses aptitudes, parce que c'est aussi ça l'intérêt d'une décision d'un faible coût d'entrée, c'est que les gens qui ont des situations limitantes, eux, arrivent à décider et arrivent à jouer leur rôle sans que la décision soit captée par une élite, parce que le grand risque des révolutions, et on l'a vu à travers l'histoire, c'est la création quand même d'une élite qui dirige au nom du peuple, mais quand même en lui donnant des petites miettes de pouvoir. L'autre aspect, c'est peut-être pour conclure, je pense que votre position, elle est très claire. Il y a juste une question que je me pose, c'est puisque l'outil du RIC et la révolution démocratique, l'idée de devenir les patrons du système politique, est vraiment plébiscité au sein des classes populaires par 80% des gens. Pourquoi vous ne le défendez pas si vous portez la voix des travailleurs et des exclus? Parce que
Parce que
porter leur voix,
j'espère,
c'est aussi porter cette revendication.
parce que justement, j'espère leur redonner confiance dans leur propre force et dans leur capacité de faire ensemble, de faire collectivement. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup peuvent toucher du doigt en fait. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait que ça ne serait pas inclusif, la lutte collective. Franchement, qu'est-ce qu'il y a eu de plus inclusif que les grandes grèves de mai-juin 1936? Même les garçons de café faisaient grève. Même les grands magasins, les serveuses des grands magasins faisaient grève. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a rien eu de
Et les
plus
personnes
inclusif.
handicapées, les personnes qui étaient
Mais
handicapées, qui.
même les personnes handicapées, il y en avait qui étaient sur les ronds-points. Parce que justement, ils avaient envie de se joindre. Même eux, en réalité, les Gilets jaunes, ils montrent ça, c'était inclusif.
Les gilets jaunes, ils
Inclusif.
ont porté cette revendication,
Il n'y a rien
pas
de
la
plus inclusif que les luttes qui sont à portée d'action de l'écrasante majorité. Et qu'on leur demande de faire, et c'est y compris en faisant que les travailleurs ils réalisent qu'ils sont capables de décider. Parce que là où je suis d'accord, c'est sur le fait, attention, attention, il ne faut pas croire que le pouvoir il soit réservé à une élite. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est un des gros problèmes auxquels on est confronté. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on nous habitue à être commandés par une administration, des patrons, et où on nous explique que d'ailleurs, pour commander, hein, pour décider, bah, il faut avoir fait beaucoup d'études, il faut bien parler, etc., etc. Et c'est une façon d'habituer finalement les travailleurs à être commandés et à leur faire croire que leur avis, bah, il est moins valable que celui des autres. Hein, voyez? Et ça, il faut lutter contre ça, évidemment. Et nous, toute notre politique d'organiser les travailleurs, parce que c'est pas nous, on n'est pas là que pour les moments de grande lutte, on est là au quotidien pour organiser les réseaux de travailleurs, pour que justement ils ne se sentent pas seuls, pour qu'ils réfléchissent ensemble à comment ils peuvent agir, y compris là l'exemple que j'ai donné pour les canicules, pour la canicule, comment on peut se faire respecter? Qu'est-ce qu'on peut faire nous? Quels sont nos gestes? Comment ensemble on va pouvoir finir la journée de travail sans être en hyperthermie, voyez? Des choses très concrètes, et y compris en discutant beaucoup avec les gens qui travaillent autour de nous. Des décisions, on en prend tous les jours. On résout des problèmes. Les problèmes techniques dans lesquels d'ailleurs les patrons ils nous ont mis parce que voilà, ils désorganisent tout en cherchant le moins cher, etc. Donc en fait, on prend plein de décisions, on a plein de compétences et qui d'autre que nous sait mieux ce qui est bon pour nous. Donc
Non, mais
notre avis,
vous conviendrez, Madame Artaud, que c'est un peu paradoxal parce que vous citez les Gilets jaunes, qui est un exemple que vous citez pour dire, voilà, un moment de réveil de la conscience, de lutte pour ses droits, etc. Mais vous n'êtes pas prête à mettre leurs mesures qu'ils ont portées sur tous les ronds-points dans votre programme. Donc j'y vois, moi, quand même un paradoxe, et vous l'avez expliqué, hein. Mais voilà, vous êtes réticente alors que tous les exemples que vous prenez, toutes vos ambitions devraient vous amener logiquement à dire, on ne peut pas ne pas défendre ça. On peut défendre autre chose, mais ça quand même, ça serait
bah,
quand
moi
même
je vous
quelque
dis,
chose
je suis
qui
ni pour ni contre, mais ce que j'ai envie de défendre en me référant aux Gilets jaunes, c'est précisément cette grande fraternité qu'ils ont vécue sur les ronds-points, cet apprentissage de la démocratie ouvrière, de ce qu'ils étaient capables de décider ensemble, de ce qu'ils étaient capables de faire, de comment ils ont pesé ainsi sur la vie politique. Et j'ai envie de leur dire, en fait, en faisant ça, vous avez pesé 1 000 fois plus que tous vos bulletins de vote, 1 000 fois plus que tous les référendums que vous pourrez
Bah
arracher demain. Et
pas
que
tant que ça,
quelque part,
parce que leurs propres mesures, même les partis qui les défendent, ne la reprennent pas.
et je termine là-dessus, c'est que cette histoire de RIC, moi je l'ai vu arriver un petit peu à la fin du mouvement, et je l'ai vu arriver un peu comme finalement une diversion du terrain où finalement les gens s'étaient montrés forts. Voilà. Et que là où on se montre fort, là où on se montre, justement, comment ils sont devenus visibles? Ils ne sont pas devenus visibles en se cachant derrière un petit bulletin de vote, etc. Non, ils sont devenus visibles parce qu'ils ont pris la parole, parce qu'ils sont imposés dans l'espace public. Voilà. Et ça, voilà. Et les travailleurs, je suis convaincue qu'ils font l'apprentissage politique d'abord et avant tout dans ces luttes collectives. Et là, je peux vous dire qu'on gagne en confiance. Quand on voit qu'on marque des points, quand on voit qu'on pèse, quand on voit que là, le gouvernement, il ne peut pas nous ignorer, il ne peut pas hein, nous snober, il est obligé de
Bah,
nous
d'autant plus
répondre.
quand on peut décider de complètement changer les règles électives, on est difficilement ignorable. J'ai promis de ne pas vous retenir trop longtemps et de prendre des questions. Je me permets parce que je suis comme vous, hein, je lutte, je pousse. Vous avez dit, je suis ni pour ni contre. Moi, j'y vois une ouverture. Est-ce que vous seriez prêt à organiser une discussion, un débat avec les personnes de votre mouvement pour qu'on puisse, voilà, présenter ce qu'on porte, le RIC constituant, pourquoi on pense que quand on défend le pouvoir de ceux qui n'en ont pas, on ne peut pas éviter ce sujet-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prête à organiser?
Bah, c'est ce qu'on a fait quand même là ce soir,
Oui,
il me
mais là,
semble.
c'était entre nous, 45 minutes, je
Ah
vous vois un
bah,
peu ouverte, jusqu'où est-ce qu'on peut vous convaincre? C'est ça ma
oui, nous
question.
sommes. Ah ben, bah, j'ai des convictions fortes, vous l'avez remarqué. Et si vous voulez, moi, je pense que l'histoire, toute l'histoire me donne raison. Regardez, Un exemple que j'ai en tête, qui me vient en tête. Est-ce que vous vous souvenez de la crise en Grèce, la crise de la dette grecque, 2011, si je ne me trompe, 2011, où finalement c'est Tsipras qui avait été élu comme le porte-voix des travailleurs. Et Tsipras, en fait, pour comment dire, imposer son plan aux banquiers européens et à l'Union européenne, a fait voter trois fois le pays. Trois fois.
Oui,
Trois
mais c'était pas
référendums.
là,
Trois fois.
attends.
Ils
En fait,
ont
je partage
fait
avec vous.
trois fois.
Non,
Qu'est-ce qu'ils
mais
ont fait?
pour nous,
Qu'est-ce
c'est
qui
pas un vote.
s'est passé? Il s'est passé que les banquiers ont dit, bah, OK, la population grecque, elle a voté, OK, et bah, on s'en moque et nous, on ferme les robinets. Et donc, en fait, la cure d'austérité, c'est vous, Tsipras, qui allez l'imposer au pays. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Ils se sont assis sur
Oui, mais
les
parce que
lois, sur les référendums, sur les
là, vous
votes.
parlez d'autre chose. Parce que
Non,
là,
je ne parle pas d'autre
nous, on
chose.
parle.
C'est
Non,
qu'il y a une idée à laquelle je tiens, et c'est là-dessus que vous ne me convaincrez pas. C'est qu'aucune loi ne fera reculer les capitalistes quand ils veulent quelque chose. Aucune loi. Regardez les règlements internationaux. Trump, il en a fait quoi? Il en a fait quoi? Hein, il a transformé tout ça. Hein, il a dit tout ça, je n'ai pas besoin. Il a fomenté une guerre comme ça parce que voilà, hein, il s'est dit qu'il allait ratatiner le peuple iranien comme ça, le régime, qu'il allait faire comme au Venezuela. On a
Ah,
plein
c'est très
d'exemples
clair, c'est très clair. Je
que
pense que
ceux qui
votre
dominent.
position, vous l'avez. Je vais vous donner les
Voilà.
questions parce que je vous ai promis de ne pas vous retenir trop longtemps. Je me permets un autre exemple. Vous citez effectivement Trump. Au moment où quelque chose dont on parle assez peu, c'est que au moment où Trump décidait de réduire la protection fédérale en matière d'avortement, les États. Les citoyens des États américains qui pouvaient exercer leur pouvoir de décision directement, eux, ont renforcé cette protection. Donc, ça montre aussi que quand les citoyens décident, ils sont capables de s'opposer aux décisions de leur président. Je vous propose de prendre quelques questions. Voilà, il y avait une question d'Albin, mais vous y avez un peu répondu. Il y a une question intéressante. On vous demande, est-ce qu'il y a un pays contemporain, même s'il est imparfait, hein, parce qu'aucun n'est parfait, qui vous sert un peu de modèle, ou en tout cas que vous prenez comme un exemple de choses positives qui ressembleraient à votre projet. Ou un
Non,
espoir. Non.
non, non, c'est des moments dans l'histoire où en effet les travailleurs ont senti leur force, l'ont organisé, l'ont actionné pour faire des choses que je trouve moi fantastiques. Hein, parce que arrêter une guerre, arrêter la guerre pendant la Première Guerre mondiale, je trouve ça fantastique. Après, vous l'avez noté, hein, il y a eu en effet la bureaucratie qui a confisqué le pouvoir aux Soviets. Hein, et nous, on est trotskistes et on pense qu'en effet, le stalinisme, ça a été une caricature hein,
Trotsky, il n'était pas doux non plus avec les marins de Kronstadt, hein. Il a quand
Ah
même
ben,
tiré sur.
Trotsky, je vous confirme que Trotsky, il a été un des dirigeants de l'armée rouge et que cette guerre civile, c'est ça aussi une révolution. C'est-à-dire qu'en fait, une révolution, soit elle se donne les moyens, si vous voulez, de gagner. Face aux forces coalisées, parce que c'est ça qui s'est passé. Hein. Vous savez, quand ils ont fait la révolution en Russie, tous ceux, y compris qui se combattaient pendant la Première Guerre mondiale, là, ils se sont tous mis dans le même camp contre la révolution bolchévique. Et c'est une guerre civile qui a duré plus de 3 ans. Et donc, il fallait faire quoi? Il fallait dire, ah bah oui, effectivement, allez, allez, on rétablit le tsarisme. Ben non, ils ont eu raison, ils ont tenté jusqu'au bout d'imposer leur façon de gouverner, leur état ouvrier. Ça n'a pas marché parce que la révolution ne s'est pas étendue et c'est là que je veux terminer sur ma réponse, c'est que non, il n'y a pas un pays et que, y compris ce que nous portons, c'est-à-dire la transformation, le renversement du capitalisme, en réalité, il peut s'exercer vraiment qu'à l'échelle internationale, pour la simple raison qu'aujourd'hui, il domine à l'échelle internationale et que quand, y compris, vous vous attaquez aux intérêts de la classe capitaliste ici en France, vous vous attaquez à la classe capitaliste mondiale parce que, vous savez, les capitaux sont imbriqués et en réalité, il faut forcément que le mouvement de révolte, le changement de société, eh bien, il se répande tel un tremblement de terre qui aurait des répliques dans tous les pays. Donc non, aujourd'hui, il n'y a pas de
Il n'y a pas
modèle,
de
mais
modèle.
il y a des moments dans l'histoire où il y a eu des vagues révolutionnaires qui auraient pu véritablement changer le
D'accord.
monde. Ça, c'est sûr.
Donc, vous.
Et celle de 1917-1920 en est une.
Ouais, et l'histoire montre que étendre la révolution, c'est compliqué.
C'est pas facile. C'est pas facile.
Je vous donne peut-être deux questions. On va essayer de garder des réponses courtes pour que les personnes puissent aussi voir leurs questions
D'accord.
posées. Quelle est la première avancée possible qui irait dans le bon sens pour votre projet sans révolution? Ou est-ce que seulement la révolution permettrait d'avancer, même un petit peu?
Bah, en fait, il y a eu quand même des grandes grèves qui, sans renverser le capitalisme, ont fait avancer les droits des travailleurs. Voilà, que ce soit sur les congés, que ce soit. OK, ça, d'accord. Mais en même temps, quand on regarde bien l'histoire, justement, c'est qu'en 36, ils ont obtenu les congés payés, et en 1939, il y avait la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que si on ne va pas jusqu'au bout, eh ben, en réalité, on ne peut pas éviter. Les guerres, cette catastrophe climatique, on ne peut pas éviter tout ça. Et ça fait aussi partie des problèmes. Et c'est pour ça qu'en réalité, ce système, si, ça ne pourra pas être à moitié. Les choses ne pourront pas se faire à moitié. Soit, effectivement, on le renverse et une nouvelle étape pour l'humanité est possible. Mais sinon, en fait, on continuera la fuite en avant destructrice qu'on connaît aujourd'hui.
Il y a une autre question qui vous dit, les mouvements ouvriers défendent des droits sociaux, mais aussi des mécanismes de contrôle des élus et de souveraineté populaire. Le RIC constituant peut être vu comme une actualisation de cette tradition, qu'elle s'inscrit dans la droite ligne de ce que le mouvement ouvrier a défendu. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, c'est vrai que le mouvement ouvrier a des principes. Il a des principes, justement, le vote. Mais il y a des votes en permanence quand les travailleurs se réunissent et les votes les plus divers qui soient. C'est la démocratie qui règne. Elle règne vraiment. Parce que justement, il n'y a pas de chasse gardée réservée à la bourgeoisie. Là, c'est fini tout ça. Donc les travailleurs, ils peuvent voter dans tous les domaines, sur tout ce qui les préoccupe, leurs conditions de travail, leurs conditions de logement, etc., etc. Et puis, il y a des principes. Les principes, c'est que ceux à qui on accorde des responsabilités, qui sont des représentants, ben, il n'y a aucune raison qu'ils vivent, qui est un train de vie supérieur à la majorité de la population. Donc, il y a des principes. Le principe, c'est qu'ils soient payés au salaire moyen. Le principe, c'est qu'ils soient révocables aussi. Révocables à tout moment. À tout moment, à partir du moment où ceux qui ont élu ce représentant considèrent que finalement il déraille, hein, ou il ne respecte pas sa parole et il n'a pas fait ce qui avait été décidé, eh ben il est révoqué. On n'a pas, voilà, c'est pas comme effectivement les élections bourgeoises qu'on nous sert, hein, où tous les 5 ans, là, on peut glisser son petit bulletin dans l'urne, hein, sur la base d'un catalogue de promesses qui n'est jamais tenu, en fait, hein. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc oui, révocabilité des élus, salaire des élus au salaire moyen, et puis surtout aussi des fonctions publiques, si vous voulez, d'administration qui justement englobent le plus grand nombre. Parce que on a parlé des anarchistes, mais moi je crois que l'État, il pourrait en fait beaucoup beaucoup être beaucoup moins comment dire, s'imposer beaucoup moins. Je pense qu'il y a un tas de choses que les gens, en s'organisant, ils pourraient faire. Et ils pourraient faire bien mieux que n'importe quelle bureaucratie, là, voilà, qui est complètement déconnectée, bien souvent, quoi.
C'est intéressant parce que toutes les mesures que vous citez, révocabilité des élus, diminution des rémunérations, interdiction de cumul des mandats, dans un grand nombre de pays ont été mis en place par démocratie directe. Madame Artaud, une dernière question pour une réponse courte. Si vous aviez l'occasion de soumettre une proposition de loi constitutionnelle, imaginez que vous avez ce droit pour lequel on lutte, pour taxer les grandes fortunes à 75%, vous ne le feriez pas? Vous n'utiliserez pas ce droit-là? Si vous aviez cette possibilité de proposer des lois qui vous permettent de limiter le pouvoir
Non,
économique.
non, moi, si j'avais la possibilité de proposer une loi et puis de, comment dire, de développer tout un débat là-dessus, c'est pas ça que je ferais.
C'est quoi que vous feriez? Allez, c'est votre mot de la fin.
Bah, peut-être, par exemple, une loi pour interdire les licenciements, par exemple. Voilà. C'est-à-dire
D'accord.
quelque chose qui soit immédiatement, dont le bénéfice soit immédiatement visible par les travailleurs. Parce que
Donc,
tout le
vous êtes
reste, on
d'accord que la loi,
Courloup et
ça
compagnie, parce que les 75% d'impôts, s'ils les payent comme ça, ils les récupéreront autrement. Donc, bon, il faut que ça soit du tangible pour les travailleurs.
Donc, les lois sont quand même importantes pour changer
Non, parce
la vie
que
des travailleurs.
je vous ai dit, si j'avais la possibilité, moi j'ai répondu à votre question, je me suis mise, si j'avais la possibilité de, et puis de créer une discussion autour, parce qu'encore une fois, pour moi, la propagande, elle est autant importante que la loi elle-même, parce que vous comprenez, si les travailleurs, ils pensent que c'est important, eh ben, je suis convaincue que justement, ils se battront pour le faire respecter, etc. Mais je suis plus convaincue sur le fait que voilà, c'est à eux de faire. C'est à eux de faire respecter que la force de la loi. La force de la loi, franchement, faut arrêter avec ça, hein. Faut arrêter de croire au Père Noël. Je le redis, dans cette société, la loi, c'est la loi du plus riche. Voilà, c'est la loi des exploiteurs aujourd'hui.
Bah écoutez, merci beaucoup, Madame Arnaud. On a un peu débordé. Merci d'avoir aussi exposé de façon très transparente nos divergences de points de vue. J'espère qu'on aura quand même, je pense qu'on a compris que voilà, c'est le RIC constituant n'est pas une priorité pour vous et pour votre mouvement. Donc ça permet aussi de clarifier les choses. Mais j'espère que voilà, comme on le disait, on aura l'occasion si pour creuser le sujet parce que je pense que vraiment les choses que vous portez gagnerait beaucoup d'avoir un outil qui permette en fait aux travailleurs et à chacun d'entre nous de devenir
Volontiers,
les
et
patrons,
puis,
vous aimez cette expression.
oui, volontiers, et puis sans doute que des camarades pourront participer à ce genre de
Ah bah
débat.
avec grand plaisir, on vous prend au mot et on vous recontactera. Je vous souhaite une
Ça
excellente
marche.
soirée et merci
Je vous
beaucoup.
remercie.